On est dans l'espérance, mais je dois avouer qu'à Notre-Dame-des-Victoires, nous sommes très bien situés pour entrer dans le dessein de Dieu. Alors, vous avez peut-être appris que dans l'aménagement intérieur de Notre-Dame, qui revient au diocèse de Paris, à nous, si on nous demande notre avis, il s'agit de réorganiser à la fois le culte et le pèlerinage dans l'ensemble de Notre-Dame, et offrir à des millions de pèlerins qui viennent tous les ans, dont 10 millions à peu près ne sont pas baptisés, un récit des merveilles de Dieu ou du salut que Dieu veut nous offrir et que malheureusement une grande partie de l'humanité ignore. Et donc quand on entrera dans la cathédrale, normalement par le portail central, qui est un portail qui met en scène le jugement dernier, qui concerne tout le monde, le jugement des nations, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, ça s'adresse à toute conscience, puisque Jésus lui-même dit que « Venez à moi, vous les bénis, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais seul, vous m'avez accompagné, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais prisonnier, j'étais étranger, j'étais… » Voilà. Et tous ces gestes de bienfaisance, c'est à Jésus même qu'on les fait, parce que Jésus s'est rendu solidaire de l'humanité tout entière en se faisant chair. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et donc, la déambulation autour de Notre-Dame et les pèlerinages se feront principalement en trois étapes. Le centre étant le mystère du Christ, qui à Notre-Dame de Paris est représenté par deux lieux tout à fait exceptionnels. Enfin, exceptionnel. Le premier, c'est la statue de la Vierge à l'enfant. La Vierge à l'enfant, nous l'avons ici aussi. Celle de Notre-Dame est un peu connue aussi, mais c'est le mystère de l'incarnation, comment Dieu se fait vraiment homme en naissant de la Vierge Marie, ce qui fait qu'il établit cette fameuse solidarité avec l'humanité tout entière. Et le deuxième lieu, alors là qui est tout à fait exceptionnel, c'est la couronne d'épines, qui représente le mystère de la rédemption. Donc vous voyez, nous sommes au cœur de la foi catholique, incarnation, rédemption sont célébrés dans le cœur de Notre-Dame. Mais on n'arrive pas comme ça, n'importe comment, devant Notre-Dame qui nous présente l'enfant Jésus, l'enfant de Dieu, le Verbe éternel qui s'est fait chair. Ni d'ailleurs de dire que Dieu s'étant fait chair, il a été rejeté, couronné d'épines et mort, crucifié sur une croix. Ce sont des mystères terribles. Nous avons bien besoin de 40 jours pour nous préparer à célébrer Pâques. Et donc pour y arriver, puisque c'est à l'extrême est de la cathédrale, à partir du portail qui est à l'ouest, on déambulera du nord vers le sud. Dans la partie nord, il y a 7 chapelles, un peu comme les chapelles qui sont ici, mais il y en a 7 tout au long de la nef, la partie nord c'est celle-là, et les titulatures seront revisitées, ont été revisitées et approuvées, aussi bien par l'archevêque que par les autorités de la culture qui collaborent avec le diocèse, et cette allée s'appellera l'allée de la promesse. Peut-être avez-vous entendu parler d'un livre du cardinal Lustiger qui a beaucoup fait pour la cathédrale Notre-Dame. Et un des principaux livres, pas facile à lire, de Mgr Lustiger s'appelle « La promesse ». En fait, il s'agit de célébrer les préparations à l'incarnation, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes. Et pas de manière simplement abstraite ou thématique, mais en prenant des grands personnages. Le premier personnage, alors autour principalement de l'Alliance, donc avec une orientation christologique et mariale. Je vous cite d'un seul coup les 7 personnages que nous mettons dans chacune des chapelles: Noé, Abraham, Moïse, Isaïe, David, Salomon, Élie. Voilà. Les 7, alors, sont liés par le thème de l'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple, à commencer par le déluge. La leçon du déluge, c'est que Dieu commence à faire alliance avec l'humanité entière, représentée par Noé et par sa famille. L'alliance sera renouvelée avec Abraham, renouvelée avec Moïse, renouvelée, etc., avec Moïse, Isaïe, David et tous les autres. Et en face, mais je vous fais grâce de ce programme, en face, il y aura l'allée des saints ou l'allée de la Pentecôte qui, après avoir médité par un pèlerinage sur la promesse et sur le Christ, Verbe fait chair et Sauveur, nous aurons donc les fruits de l'Esprit-Saint, ce qui fait que pour les gens pressés, au moins dans leur tête, la déambulation dans Notre-Dame se fera au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'importe qui pourra normalement être le témoin, quand il est chrétien, des pèlerins ou des visiteurs qui viennent visiter Notre-Dame, souvent dans une perspective culturelle, disons même touristique, mais à nous peut-être, les diocésains de Paris et d'ailleurs, de pouvoir témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus, de comment il intervient dans l'histoire. Il est intervenu, il intervient et il interviendra jusqu'à la fin des temps. Voilà qui est intéressant. Alors, pourquoi je vous inflige ça pendant le carême ? C'est pas encore très clair. C'est parce que nous célébrons l'année du lectionnaire catholique latin de Saint Marc. Vous voyez, donc c'est la deuxième partie du lectionnaire sur les trois qui s'enroulent l'une après l'autre. Et cette année, précisément, les grands thèmes de chacun des dimanches du carême reprennent ces grands personnages. Dimanche prochain, donc demain, c'est comme première lecture le thème du déluge. Dimanche prochain, ce sera Abraham, et notamment le sacrifice d'Abraham et l'alliance qui lui est confirmée avec Isaac. Et puis nous aurons Moïse dans le désert et nous aurons le prophète Jérémie. Et nous avons donc un carême qui porte tout entier sur la promesse. Alors vous entendrez dans les prédications demain d'autres détails que je ne dirai pas. Moi je nous introduis, car je m'y introduis moi-même avec vous, pour entrer donc en familiarité avec la parole de Dieu de ces dimanches de carême. Nous allons commencer en remontant le courant, c'est-à-dire en commençant par la fin du lectionnaire, c'est-à-dire par l'Évangile, et puis remonter ensuite au déluge et voir le commentaire qu'en fait Saint-Pierre. Vous allez voir que, et je l'ai découvert en préparant pour vous, nous avons vraiment affaire à quelque chose d'extrêmement important, voire même de très urgent. Mais pour cela, et c'est un effort de carême auquel il faut consentir, il est bon, quand on lit une page d'Évangile, il est bon de se représenter la scène. Ce qu'on appelle, chez saint Ignace de Loyola, une composition de lieux. Bien regarder ce qui se passe, et les récits bibliques sont en général extrêmement souples. Il y a plusieurs manières de comprendre. Et à travers cette multiplicité, à travers cette souplesse, on peut penser que Dieu vient nous réveiller, vient nous parler à nous, et ce que nous voyons peut être ce que Dieu veut que nous regardions, que nous comprenions et que nous vivions. Mais ce n'est pas donné de manière automatique, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il faut quelqu'un qui écoute. Et quand Dieu nous parle, il faut que nous soyons rendus familiers, attentifs de ce qu'il nous dit. Nous allons prendre un exemple, puisque l'Évangile que nous avons au début de ce premier dimanche, c'est le tout début de l'Évangile selon saint Marc. On est habitué, quand on lit l'année A, l'année dernière, les grands évangiles, comme on dit, du carême, c'est toujours la tentation au désert. Et nous connaissons presque par cœur les dialogues qu'il peut y avoir entre Jésus et le diable. Bon, ça c'est dans saint Matthieu et dans saint Luc. Dans saint Marc, c'est un peu différent. Alors, on connaît en général les quatre évangiles, plus ou moins, mais quand on en lit un, il faut essayer de ne pas le confondre avec les autres. Saint Marc n'est pas Saint Matthieu, qui n'est pas Saint Luc, qui n'est pas Saint Jean, c'est le même Jésus dont ils parlent, mais ils ne disent pas tous en même temps la même chose. C'est comme quand il y a n'importe quel événement qui se passe dans notre maison ou dans la rue, il y a plusieurs manières de regarder et de retenir ce qui vient de se passer. Et chacun des évangélistes garde cette liberté. Et donc nous nous concentrons sur Saint Marc. Alors c'est au premier chapitre, dans les versets 12 à 15. Oui, c'est même très, très court. Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Vous rappelez la théophanie qui se manifeste au moment où Jésus ressort de l'eau du Jourdain. La voix de Dieu se fait entendre, la colombe représente le Saint-Esprit, et Dieu dit « Voilà mon Fils ». Oui. Nous verrons dimanche prochain, si vous le voulez, le récit de la transfiguration qui a des contacts assez étroits avec cette scène du baptême. Mais je lis la suite, puisque c'est ce que nous avons demain. « Aussitôt, l'Esprit pousse, jette littéralement Jésus au désert ». Et durant 40 jours, au désert, il est tenté par Satan. Il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Voilà, c'est toute la scène résumée par Saint Luc. Il n'y a aucun dialogue entre Jésus et Satan, ce qui est très discret et qui fait qu'il y a plusieurs manières de voir la scène. Je lis quand même la suite, mais dont je parlerai très peu. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu, et il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Faisons attention quand même à ce petit détail. Dès le début, encore une fois nous sommes au premier chapitre, au verset 14, dès le début, on nous dit que Jean-Baptiste, qui avait commencé de prêcher avant Jésus et qui avait préparé sa venue, Jean-Baptiste est rapidement mis en prison. Et dans cette prison, nous le savons tous, Marc va le raconter avec beaucoup de détails, c'est terrible, Jean va être égorgé, va être assassiné dans sa prison. Nous sommes dans un climat extrêmement pénible de violence. Alors on le sait pour Jean-Baptiste, mais on n'est pas peut-être toujours assez attentif à l'idée que Jésus prend la suite de la prédication de Jean-Baptiste dans un climat de violence et de menace de mort. Et Jésus n'est pas comme nous sommes, moi je suis confortable, enfin, pas très confortablement d'ailleurs, enfin, je suis tranquille à ce pupitre et nous sommes assis un samedi après-midi pour préparer le dimanche, personne à peu près ne nous menace. Quand on se rappelle l'enseignement et les gestes de Jésus, je crois qu'il faut toujours se rappeler que Jésus a exercé ses 3 années de ministère, de prédication, d'enseignement, pour nous convaincre de qui il était et de qui était vraiment Dieu, dans un climat donc de violence. Et nous le savons, quand quelqu'un dit quelque chose en prenant des risques, c'est toujours plus important. Je ne peux pas ne pas penser à ce malheureux Alexis russe et qui depuis des années, depuis 10 ans, vous voyez, a voulu s'opposer au gouvernement très despotique de la Russie et qui vient de le payer de sa vie. C'est toujours extrêmement difficile. Il faut se dire, attention, les paroles de Jésus sont à prendre avec d'autant plus de sérieux que Jésus expose sa vie. Et du coup, il faut que nous fassions un effort d'imagination sur la scène précédente. Je répète, l'Esprit Saint pousse violemment, jette Jésus dans le désert, et durant 40 jours au désert, il est tenté par Satan, et on oublie Saint Matthieu et Saint Luc, qui n'ont pas encore écrit leur évangile au moment de Saint Marc. Et alors la scène qu'il faut imaginer est la suivante, il est avec les bêtes sauvages, et les anges le servent. Je veux dire, fermons les yeux, regardons la scène. Alors, on est dans le désert, Le désert, c'est pas du tout comme les Français en général se l'imaginent, c'est pas du tout un lieu romantique pour aller faire du camping. Le désert, c'est un lieu aride, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, et c'est le lieu où les démons se réfugient. En clair, c'est un lieu hostile. Oui. Alors, Jésus arrive dans ce désert, il y a des bêtes sauvages et des anges qui le servent. Alors, commençons par un des protagonistes. Prenons les bêtes sauvages. Comment les voyez-vous? C'est une vraie question, hein? Oui, oui. Comment voyez-vous les bêtes sauvages? Alors, il y a des scorpions, il y a des lions, il y a des... Qu'est-ce qu'elles font? Avec Jésus qui est en face. Alors, soit elles sont sages, vous voyez, elles sont domestiquées par Jésus, et nous avons des oracles de prophètes pour nous dire l'espérance de la paix de Dieu, le loup sera avec l'agneau, le nourrisson jouera avec les serpents, et voilà, on se dit, c'est gagné. Jésus arrive, et avec lui, la paix. Je crois qu'il faut se dire que tout le monde peut avoir le réflexe de rêver à une telle situation. Et nous aspirons tous à une paix, et d'une certaine manière, nous imaginons que la paix de Dieu va tomber du ciel de manière un peu automatique, un mot plus dangereux, de manière un peu magique, et qu'il n'y a qu'à faire ce que Dieu demande, et ça sera immédiatement la paix. C'est bien de rêver à ça, mais c'est un rêve et ça ne correspond pas, je viens de le dire avec Jean-Baptiste, ça ne correspond pas avec ce que Jésus a vécu. Jésus n'a pas connu la paix pendant le temps qu'il a passé parmi les hommes. Et il faut nous imaginer, là encore je parle beaucoup d'imagination, mais ce n'est pas tellement l'imagination, ce sont des images, vous voyez. Mettons Jésus au milieu de nous, voilà quelqu'un de saint, sa mère elle-même est immaculée, l'un et l'autre n'ont jamais péché, mais je demande, comment font-ils pour supporter les gens autour d'eux, qui eux sont des pécheurs, comme vous et moi, avec beaucoup de violence. N'oublions pas que le temps de l'incarnation du Verbe éternel, c'est dans une petite province à l'extrémité de la mer Méditerranée orientale et qui est occupée par l'armée romaine. L'armée romaine a pris possession par la violence, par les armes, de la petite Judée pour protéger sa frontière et récolter des biens, notamment du blé, de l'huile d'olive, tout ce qui est nécessaire pour alimenter la capitale romaine. Mais Jésus a connu une véritable violence. Pilate n'est pas un enfant de cœur. Et même à l'intérieur du pays, on sait que le clergé, notamment les Sadducéens, sont des gens d'une grande violence et qui ont fait du temple une caverne de voleurs. Alors, je demande comment des gens saints qui ne pêchent jamais peuvent-ils supporter de vivre dans un monde qui ne comprend pas et qui réagit à la violence par la violence, à la cupidité par le vol et tous les drames que nous connaissons. C'est extrêmement difficile pour Jésus de maintenir le cap et de patienter et en un sens de supporter la violence contre lui et évidemment contre ce qu'il révèle de Dieu lui-même. Et ce qui est vrai de Jésus, qu'il l'a payé très cher puisqu'il a été crucifié, vaut aussi bien entendu pour sa sainte mère. Marie a connu la contradiction, Marie a connu des violences terribles. Rappelez-vous comment le vieillard Siméon lui a dit qu'un glaive percerait son cœur. Elle a parfaitement accompagné Jésus en vivant saintement dans un monde de pécheurs. Mais je veux simplement te souligner que c'est extrêmement coûteux, c'est très onéreux, c'est pas du tout facile d'être différent des autres. Eh bien, tant Jésus que Marie l'ont vraiment fait. Mais donc pas dans la paix. Il ne suffisait pas que Jésus arrive quelque part pour que les gens soient gentils, soient honnêtes. Et on peut penser, il en est de même pour les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ça attaque. Et d'ailleurs, à la fin du carême, le vendredi saint, nous allons contempler le Christ au calvaire et nous méditerons, pour avoir plus de détails, car les évangiles en donnent très peu, nous aurons les psaumes de supplication, les psaumes de détresse, et je pense notamment au psaume 21-22, qui commence par « mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani », que Jésus commence à dire sur la croix, « mon Dieu, pourquoi, même en deux mots, m'as-tu abandonné ?» Et la description qu'il fait est terrible. Ah, notamment, nous retrouvons les bêtes sauvages. Des chiens me cernent, des lions grondent contre moi, des taureaux et des buffles m'attaquent. Oui, nous l'avons dans le psaume. Alors, ce sont des images, évidemment, mais qui représentent la dure réalité d'un monde en violence. Je crois que si on a le droit de rêver d'un monde pacifié, il faut savoir que, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Ça viendra à la fin des temps, mais en attendant, c'est à nous d'engager le combat. Et le combat, voyez-vous, il est toujours entre ces deux situations. Et nous en avons la preuve dans les combats d'aujourd'hui. On rêve que l'ennemi est anéanti. On rêve qu'il n'y a plus un seul opposant. Pensez à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, avec ce massacre pendant la nuit et le petit matin, et la réaction que l'on peut comprendre, évidemment. Ben, on va éradiquer tous les terroristes, il n'en restera plus un seul. Vous voyez ? Dans toute guerre, tous ceux qui partent au combat rêvent que l'ennemi va être complètement anéanti. Et c'est pour ça qu'on fait la guerre. Et on croit que ça va fonctionner. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut beaucoup de temps. Et Jésus devra passer tout son temps à persuader que l'initiative de paix est un geste prophétique, est un geste de la sagesse divine, qui ne vient pas de nous, qui n'est pas du tout instinctif, mais qui nous vient de la révélation de Dieu et de la grâce que Dieu vient nous donner. Mais il faut faire part à la fois à cette violence qui existe en nous et qui rêve que par la violence on va répondre et anéantir la violence, ça ne marche pas, et une sagesse qui vient de Dieu. Alors précisément cette sagesse qui est celle de Jésus, c'est déjà celle qui est révélée dans l'Ancien Testament par le récit du déluge. Car le récit du déluge, dont nous avons une toute petite partie dans la liturgie de demain, se passe en deux temps. Le premier temps se passe au chapitre 6 de la Genèse. C'est un chapitre terrible, mais là encore, il faut savoir l'affronter. Dieu. Alors c'est après l'assassinat de Abel par Caïn. Donc les frères ennemis, nous connaissons ça, les frères ennemis se battent jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Drôle d'humanité que celle qui sort des mains de Dieu. Et alors, et vous remarquez que Dieu protège Caïn. Et Dieu ne se venge pas en anéantissant Caïn, au contraire, il le protège pour qu'il se relève. pour qu'ils puissent se laisser reconstruire. Oui, il y a une autre vie après la violence et après le péché. On espère toujours une conversion. Alors vous connaissez Victor Hugo qui montre, qui raconte dans ses poèmes comment Caïn a toujours été face à sa conscience de pécheur et qu'il n'a pas forcément bien reçu la bonne nouvelle que Dieu voulait lui donner. Mais voilà comment se présente l'histoire de Noé. La situation est terrible. Le Seigneur, dans la Genèse, vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, que son cœur ne formait que des pensées mauvaises à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Il s'affligea dans son cœur. Oui, il faut souvent se demander, quand on voit des scènes épouvantables dans notre monde, de quelque côté que ce soit, d'une part, jusqu'où va cette méchanceté, cette malice, et qui nous effraie, dont on a grande honte la plupart du temps, d'ailleurs il vaut mieux en avoir honte que de s'en vanter, mais on oublie toujours une autre victime, si j'ose dire, mais qui est Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et ça se passe mal. Et Dieu voit que ça se passe mal, et vous voyez, on emploie des formules extrêmement violentes. Dieu se repent d'avoir créé l'homme. En un sens, qui est celui qui souffre le plus de la violence qui est quotidienne? Vous allez me dire, bien sûr, ce sont les victimes. Oui, mais les bourreaux sont aussi, en quelque sorte, ceux qui perdent à cette violence. Ils se déshumanisent complètement. Oui, mais et Dieu là-dedans? Et Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas celui qui souffre quand il voit ses propres enfants, et quelquefois les plus chers, les plus immédiats, ceux qui auraient dû être les plus familiers, les plus fidèles, faire l'inverse de ce pourquoi Dieu les avait créés, les avait sauvés? Mais épouser le point de vue de Dieu et partager le regard de Dieu sur notre monde, y compris sur nos propres péchés, est un exercice spirituel qui est extrêmement fécond. D'abord, ça nous sort un petit peu de notre position un peu centrale. On se met toujours au centre du monde. Non, nous ne sommes pas au centre du monde. C'est Dieu qui est au centre du monde. Et il faut aller le visiter. Oui. Alors, qu'est-ce que dit Dieu? Oui. Alors, solution radicale. Oui. Je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés. Depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, les reptiles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous voyez, Dieu, lui aussi, envisage ce que toute guerre commence par envisager. Je vais éradiquer tous les pécheurs de sur la surface de la terre. Vous voyez, il faut composer avec ce qu'on pourrait appeler une révolte contre la violence. Oui. Et si demain vous ne saviez pas quoi faire, demain après-midi, il y aura pas loin d'ici, à Saint-Germain-l'Auxerrois, il y aura donc les conférences de carême de Notre-Dame, qui ont lieu cette année pour la dernière fois normalement à Saint-Germain-l'Auxerrois, et qui porteront sur les grands auteurs français du XXe siècle, chrétiens, catholiques, et qui ont partagé ce regard sur le monde. Et demain, c'est Léon Blois qui sera présenté. Et Léon Blois se caractérise par une extraordinaire lucidité. Il peut être extrêmement acerbe, oui, violent dans l'observation du mauvais comportement dans son cœur et dans celui de ses contemporains. Mais ce regard lucide, terrible, vraiment, on dirait de l'acide, hein, qui tombe de sa plume, est orienté et comme transformé par une espérance. Oui, ça va mal, mais ce n'est pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité. Un autre comportement est possible, une possibilité de se convertir et de se laisser reconstruire est toujours offerte. Et c'est là que, dans le récit, nous avons déjà, alors qu'on entre dans un tunnel bien sombre, nous avons comme une sortie de ce tunnel. On ne sait pas pourquoi, mais on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. On ne nous dit absolument pas qu'il était juste, qu'il a rattrapé tout le monde, qu'il a compensé la folie de ses contemporains. Non. C'est le regard de Dieu qui a su voir, peut-être pas un feu très ardent, mais peut-être une petite étincelle, peut-être quelques cendres qui sont encore un peu rouges, à partir duquel, si on soufflait, on pourrait faire repartir le feu. Noé n'est pas un sauveur. Noé, c'est un sauvé. C'est quelqu'un qui bénéficie de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et comme on ne sait pas pourquoi il bénéficie de cet amour, on peut penser que c'est parfaitement gratuit et que l'amour n'a pas d'autre raison que d'être aimé. Et c'est Dieu qui en est le foyer, qui en est le moteur. Et ainsi, l'histoire va continuer d'avancer. Et Noé va être celui qui va être l'emblème du salut que Dieu offre en toute occasion. Mais Dieu avait dit, je vais effacer les pécheurs de dessus la surface de la terre. Ah oui, mais la Genèse n'est pas le seul livre de la Bible. Et c'est là qu'il faut entrer dans la sagesse divine. La sagesse divine ne parle jamais en un seul temps. Même quand Dieu parle, et comme il parle pour qu'on écoute une langue humaine, il ne peut pas tout dire en même temps. Et il faut y penser à cela. Hein. Dieu qui est divin, lorsqu'il s'exprime, emploie des mots humains qui sont fragiles, qu'on peut comprendre de travers et qui ne peuvent pas non plus tout dire en même temps. Comment dire ensemble la justice, la colère et aussi le pardon et la miséricorde. Et la Bible fonctionne en plusieurs ensembles. Et de cela, nous devons être bien conscients, mes amis, et ne pas tout de suite dire « Ah, Dieu a dit ça, c'est tout ce qu'il a dit ». Non, Dieu parle en plusieurs temps et en plusieurs modes. Nous avons principalement ce qu'on appelle la loi, les 5 premiers livres de la Bible, les prophètes, et puis les sages. Et puis nous avons le Nouveau Testament. Et puis nous avons la tradition, notamment la tradition catholique, qui continue d'évaluer les trésors de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui correspond à cette phrase terrible « Je vais effacer les pécheurs de la terre » Eh bien, la prière d'un roi d'Israël, un grand roi, mais qui, dans sa faiblesse, a aussi commis des péchés dramatiques. Au moment où David va tuer le soldat Uri, qui est à son service, parce qu'il lui a volé sa femme, il a volé la femme d'Uri, David va faire assassiner cet homme, et un prophète viendra faire prendre conscience au roi David qu'il a commis un acte irréparable, qui mériterait qu'il soit effacé de dessus la surface de la terre. Et quand David prend conscience de ce reproche, sa grandeur, c'est effectivement de reconnaître qu'il a gravement péché. Et devant Dieu, dont il pense quelque part que Dieu n'est pas qu'un juge, il a cette prière dans le psaume 50, le psaume Miserere, un psaume qu'on prie beaucoup pendant le carême. « Crée en moi un cœur pur, mais surtout, efface mon péché. » Et voyez comment il y a une complémentarité fondamentale dans ces deux grands moments de la parole de Dieu. À chaque fois, c'est inspiré par Dieu. Dieu dit « Je vais effacer les pécheurs » et Dieu dit « En fait, ce sont les péchés que je vais effacer. » Il faut passer de l'un à l'autre. Mais attention, pas de l'un à l'autre en ce sens que le psaume viendrait remplacer la Genèse. Non, On comprend bien que ce ne sont pas les pécheurs, mais les péchés qui vont être supprimés. Mais pourquoi continue-t-on à lire dans la Genèse que Dieu veut effacer les pécheurs ? Pour nous rappeler que le péché, c'est grave. Le péché fait beaucoup de mal. Et qu'on pourrait comprendre, dans cette idée de complémentarité, que finalement la miséricorde vient effacer toute la nécessité de la justice et de la droiture et viendrait faire oublier les dégâts du péché. Non, on n'oublie rien de la gravité du péché et on n'oublie rien de la miséricorde de Dieu qui est plus grande encore et qui peut reconstruire la justice chez un homme pécheur. Et c'est ça que Dieu veut que nous tenions bien assemblés. Oui, c'est grave et il ne faut pas commettre de péché. Oui, il y a miséricorde pour le pécheur. C'est la grande prière du saint Curé d'Ars. Le saint Curé d'Ars qui vraiment, à la suite du Christ, est un apôtre de la miséricorde envers les pécheurs, avait cette prière qu'il disait tout le temps, « Seigneur, donne-moi l'amour du pécheur et l'horreur du péché. » Ça peut sembler évident. Eh bien, pour nous montrer que ça ne l'est pas tant que ça, il faut savoir, comme Léon Blois aimait le faire, changer les formules. Et si je la transforme, ça donne quoi ? Je demande ou j'expérimente que finalement, je n'aime pas les pécheurs. Oui, mais j'aime le péché. On a inventé le nom de péché mignon. Hein, les péchés pas graves, et puis petit à petit, on finit par s'enfoncer bien bas, bien bas. Voyez-vous, il n'est pas évident d'avoir justement cette juste lecture de la parole, et d'être plein de miséricorde pour celui qui fait mal, pour le reconstruire, pour le repêcher, et d'avoir de la peur, voyez, et de la haine pour le péché qui est à ne jamais commettre. C'est ça, je crois, cet esprit de résistance comme cet esprit d'accueil de ce que Dieu vient nous donner comme une véritable sagesse. Et vous voyez, la clé de cette sagesse, c'est de savoir lire les différents temps de la Bible. Alors, c'est assez courant. Ça ne se trouve pas que dans la Genèse, que dans Noé. Je vous donne un autre exemple. Tout le monde connaît l'idée Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, vous voyez. Ces villes, vous voyez, qui ont été bouleversées, vous voyez, par Dieu. Et je rappelle que dans la Bible, le principal péché des gens de Sodome, c'est de ne pas accueillir les étrangers qui se présentaient. Un crime qui déplaît tout à fait à Dieu. Et que va faire Dieu, vous voyez, pour nous montrer que c'est très laid, il va bouleverser, je garde le mot très technique de la Bible, hein, il va bouleverser les villes de Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, il n'y aura que la petite ville de Tsoar où Lot va se réfugier. De nouveau, nous retrouvons un Dieu terrible, un Dieu qui veut exterminer tous les pécheurs, qui rêve qu'il n'y a plus de pécheurs sur la terre. Mais là encore, dans les prophètes, on trouve une autre parole. Il faut aller chercher le prophète Osée. Et allez lire au chapitre 11e comment Dieu réagit profondément au péché. Alors, il dit qu'il va enlever les pécheurs, en fait, il ne le fait pas. Il nous le dit, je rappelle, pour nous dire, c'est très grave quand même. Mais Dieu fait plus que cela. Le texte est admirable. On le lira cette année comme première lecture pour la fête du Sacré-Cœur. Je crois que nous aimons la fête du Sacré-Cœur, notamment des victoires. Et il faut entendre cette parole. Je lis Osée, chapitre 11, versets 7 et suivant. « Mon peuple est cramponné à son péché. On les appelle en haut, pas un qui se relève. » Alors Dieu se lamente. « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm, une des grandes tribus d'Israël ? Vais-je te livrer, Israël ? Vais-je te rendre comme Adma, Tseboïm, Sodome et Gomorre ? Est-ce que je vais te bouleverser, te détruire ? Non, mon cœur en moi est bouleversé. voyez comment Dieu intervient. Dieu voit notre péché, mais il prend sur lui. Puisque de nous-mêmes, nous ne savons pas réagir correctement au mal que nous faisons, Dieu prend sur lui. Et comme nous sommes chrétiens, grâce à Dieu, nous pouvons voir comment c'est Jésus qui va prendre sur lui toute cette violence pour nous montrer à quel point il faut la renverser. Mais là encore, ce n'est pas le pécheur qui va être renversé ou bouleversé, c'est le péché qui est en nous et qui, pendant ce carême, doit nous paraître horrible, insupportable, indigne. On n'en veut plus. Et mon cœur est bouleversé en moi, toutes mes compassions, toutes mes entrailles s'émeuvent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, dit Dieu. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viens pas pour détruire. Oui. Voilà le comportement de la miséricorde de Dieu qui est celui qui dit « Je vais bouleverser Sodome et Gomorre. Je vais effacer les pécheurs. » Et voyez-vous, quand nous avons des sentiments de haine contre la violence, le mal de tous les méchants, elle est à convertir comme Dieu. Dieu qui se convertit pour nous faire comprendre que s'il le fait, c'est pour que nous le fassions à notre tour. Et c'est à ce moment-là seulement que la paix est possible. Il y aura encore d'autres exemples, et sur des moments, vous voyez, ce sont des textes très connus. Noé et le déluge, Abraham avec Sodome et Gomorre et Lot, mais il y a tout simplement ce que nous avons pendant la nuit de Pâques. Alors que Dieu va libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, et Moïse, avec la force du bâton de Dieu, va faire s'écarter la mer pour que tout le monde passe à sec. Et une fois que Israël, le peuple de Dieu, est passé, Moïse remet son bâton et les flots reviennent et vont engloutir l'armée de Pharaon, bloup, 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 hein, et ils sont engloutis, il n'en resta pas un seul. Eh bien, dans le prophète Michée, ce sont des petits prophètes de la Bible, on ne les lit pas souvent, mais vous voyez comme ils sont précieux, la parole est tout aussi inspirée que celle de la Genèse ou de l'Exode. Eh bien, en Michée au chapitre 7, je vais le chercher parce que c'est trop beau pour ne pas être lu, je risque de fausser le thème. Alors, il faut le trouver, le prophète Michée. Voilà, Michée, ouf. Michée, je lis la fin. Il n'y a que 7 chapitres à Michée. Voilà. Ça se termine. Vous voyez, alors, dans ce procès que Dieu fait à son peuple pour lui montrer qu'il est vraiment, il n'est pas à la hauteur, comme nous ne le sommes pas nous-mêmes, voyez, voilà comment réagit le peuple de Dieu. Nous, vous voyez. Qui est comme toi, Seigneur, toi qui supportes la faute, qui passes sur le forfait du reste de ton héritage. Dieu ne maintient pas pour toujours sa colère, car il aime la fidélité. De nouveau, il aura pitié de nous. Il engloutira nos fautes. Dans les gouffres de la mer, tu engloutiras tous nos péchés. Vous voyez, on est passé, c'est le même phénomène, au lieu d'engloutir les pécheurs, Pharaon et toute son armée, on engloutit les péchés. Il faudra y penser la nuit de Pâques, parce que dans les paroisses françaises et parisiennes, on chante avec beaucoup d'allant, « Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ah, ». Ben oui, ben attendez... Quelqu'un entrerait par hasard dans l'église pendant qu'on chante, oui, ça serait comme le djihad, oui, ça serait la razzia. Oui. Ben, ce n'est pas ça qu'on veut. Mais il faut savoir, oui, qu'il y a une autre parole, voilà, qui est la clé de la première. On garde la première car Pharaon esclavagiste, c'est abominable, on ne l'aime pas. Oui, mais on aime Dieu qui, lui, arrive à faire miséricorde et à reconstruire ce que nos péchés défont. Voilà, voyez-vous, cette sagesse de Dieu qui fonctionne en plusieurs temps. Car Dieu dans la Bible parle dans la loi, parle dans les prophètes, parle dans les psaumes. Et nous devons nous familiariser avec cette histoire, avec cette temporalité. Mais voyez-vous, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons nous aussi ces différents sentiments qui se bousculent en nous. Eh bien, donc, la colère, qui voudrait que tout de suite ça s'arrange, et puis la patience de la conversion. Ce que je propose, c'est de discipliner ces mouvements que nous avons en nous. Et parce que Dieu nous dit qu'il les éprouve comme nous, et même le premier, puisque Dieu se montre capable de reconstruire un monde juste à partir des pécheurs que nous sommes, nous devons emboîter le chemin à cette pédagogie. On pourrait objecter, et je termine par là, que le pardon de Dieu serait un pardon facile. Souvent on dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Bien, quand on regarde le Christ en croix, là encore on peut inverser la formule, c'est trop vrai pour être beau. Le Christ en croix est terrible, il montre la gravité du péché. Et donc le carême, pour arriver à faire la discipline de tous ces sentiments un peu contradictoires en nous, pour les mettre en bon état de marche, il faut que nous fassions avec Jésus l'apprentissage du chemin de croix, l'apprentissage du calvaire, dans un but bien précis. Passer de la colère, qui est très rapide pour dénoncer les péchés des autres, à ce regard en vérité sur nous qui avons tant besoin de nous convertir. Et je crois, mes amis, que nous sommes baptisés un petit nombre, assez grand quand même, enfin, un petit nombre dans le monde, mais ce n'est pas simplement la paix pour les chrétiens, c'est la paix mondiale qui est menacée et qui a besoin de cette sagesse. Donc moi je dis, grâce à la liturgie dominicale du carême, apprenons la sagesse de Dieu et apportons notre petite contribution pour que Dieu puisse construire sa paix au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, nous regarderons, vous pouvez préparer le lectionnaire du deuxième dimanche, avec notamment Genèse au chapitre 22, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, la foi d'Abraham que nous rencontrons dans la scène de la transfiguration. Amen.